Imaginons un instant une fonderie d'acier. Le truc tourne à plein régime, les fours sont à plus de 1000 degrés.
Ouais, le métal en fusion, tout est millimétré, quoi.
Exactement. Et là, soudainement, sans aucune alarme dans la salle de contrôle, le système de refroidissement s'arrête net.
Les vannes se verrouillent.
Voilà, la pression monte. Et le pire, c'est que ce n'est pas une panne mécanique. C'est juste une ligne de code. Une ligne exécutée en silence par quelqu'un à l'autre bout du monde qui vient de prendre le contrôle physique de l'usine.
Ça fait froid dans le dos, mais ouais, c'est plus du tout de la science-fiction aujourd'hui.
Ah ben, clairement pas. Alors, avant de vraiment se lancer dans cette exploration approfondie, il faut bien spécifier que cette analyse est réalisée par la société Integral Systems, experte en informatique industrielle depuis plus de 20 ans.
C'est important de le rappeler, oui. Parce que là, on sort de l'informatique classique.
Totalement. On laisse de côté les vols de mots de passe, les fuites de cartes de crédit. Aujourd'hui, on entre dans une dimension où la cybersécurité a des conséquences matérielles. Des trucs qui se cassent, ou pire, des conséquences mortelles.
C'est un changement de paradigme total, en fait. Historiquement, les infrastructures critiques, donc l'eau, l'électricité, les usines, ça vivait dans une bulle, complètement isolée.
Ce qu'on appelle l'OT, c'est ça, les technologies opérationnelles.
Ouais, c'est ça, l'OT. Ces systèmes, ils ne parlaient pas à Internet. Mais avec l'industrie 4.0, la course à l'efficacité, on a forcé la connexion entre ce monde physique et le monde virtuel, donc l'IT, l'informatique de bureau.
Et c'est là que les ennuis commencent. Pour comprendre cette bascule, on s'est plongé dans une pile de documents assez massifs. Le panorama 2025 de la NSI, les rapports de Fortinet et Kaspersky.
Il y a aussi les données d'IMS Networks, puis les directives du GIMELEC sur la sécurité.
Sans oublier, bien sûr, les analyses d'Integral Systems sur les failles de bas niveau. Et franchement, la conclusion de tout ça, elle est super claire. La frontière entre IT et OT, elle n'existe plus.
Elle a complètement disparu, ouais.
J'ai une image en tête pour illustrer ça. En fait, connecter un capteur industriel des années 80 ou 90 à un réseau moderne, c'est un peu comme prendre la porte blindée d'un sous-marin nucléaire et l'installer sur une tente de camping.
Oh, c'est exactement ça. C'est une super métaphore.
La porte en elle-même, elle est solide. Mais la tente autour, elle résiste pas à la météo ou à un mec avec un canif. La structure globale est vulnérable.
C'est ça le vrai défaut d'architecture. L'informatique de gestion, donc l'IT, elle a grandi avec Internet. Elle s'est pris des coups, donc elle a développé des anticorps.
Le pare-feu, les antivirus, tout ça.
Voilà. Alors que l'OT, lui, a grandi bien au chaud dans un coffre-fort physique. Donc, quand on a branché ces automates sur les réseaux d'entreprise, juste pour avoir de belles courbes de production sur Excel, on a exposé des équipements qui n'ont aucune notion de défense.
Même pas un mot de passe basique.
Souvent, rien du tout. D'ailleurs, l'étude d'IMS Networks montre un truc effrayant. Sur tous les industriels attaqués, 47% ont vu l'attaque traverser la frontière IT pour aller infecter directement l'OT.
Donc les pirates, ils bloquent plus juste la compta, ils descendent direct dans les machines-outils.
Exactement, et ça fait mal.
Tu m'étonnes. J'ai vu les chiffres de l'ANSSI pour 2025. C'est plus de 3500 événements de sécurité traités. Même s'il y a eu une petite baisse à cause du pic des JO 2024, le volume reste dingue.
Et regarde les cibles, c'est ça le plus fou.
Ouais, l'éducation à 34%, les ministères, les collectivités, la santé. Moi, je pensais naïvement que les hackers tapaient les banques, tu vois, pour l'argent direct. Pourquoi s'acharner sur des hôpitaux ou des usines?
Parce que le modèle économique a changé. Maintenant, c'est l'extorsion par la paralysie.
L'extorsion par la paralysie, d'accord.
Ouais. Réfléchis, un hôpital ou une usine de potable, ça peut juste pas s'arrêter. La pression pour payer une rançon est gigantesque quand t'as des vies en jeu.
Oui, de la survie économique d'une région, ouais.
Tout à fait. Les rapports donnent des exemples qui coûtent très très cher. Saint-Gobain, avec NotPetya en 2017.
Ah oui, je m'en souviens.
C'est 250 millions d'euros de chiffre d'affaires partis en fumée parce que les usines se sont arrêtées. Norsk Hydro, l'aluminium, en 2019, ils ont dû tout repasser en manuel. 70 millions de dollars de pertes.
Tout en manuel. Genre des ouvriers avec des fiches papier.
Exactement. Et attention, ça touche pas que les géants. Prends la Normandie's Pet Food, une PME. L'usine paralysée, ils ont dû produire à l'aveugle pendant 48 heures.
Produire à l'aveugle, l'angoisse.
Résultat, 100 000 euros de pertes directes juste sur deux jours.
Ça soulève un point super important sur la culture en fait. Dans un bureau normal, à l'IT, si un serveur chope un virus, on le débranche, on formate, on remet une sauvegarde.
Ouais, c'est pénible, mais on gère.
Voilà. L'objectif, c'est de protéger la donnée, le secret. Mais dans l'usine, si tu redémarres brutalement un automate qui gère la pression d'une cuve chimique, bah, la cuve, elle peut exploser.
C'est toute la différence. En cybersécurité, on parle de la triade. Confidentialité, intégrité, disponibilité.
OK, le fameux CIA en anglais.
C'est ça. Dans l'IT de bureau, c'est confidentialité d'abord. On protège le secret. Mais l'OT, l'usine, elle inverse ce modèle. C'est la disponibilité qui est reine. La chaîne ne doit jamais s'arrêter.
Quoi qu'il arrive, the show must go on.
Voilà. Ensuite vient l'intégrité. La température du haut fourneau, la donnée doit être exacte, sinon ça fond. Et la confidentialité, franchement, c'est le cadet de leurs soucis.
Bah oui, savoir qu'un pirate connaît la température de la cuve, on s'en fiche un peu. L'important, c'est qu'il puisse pas la modifier.
Exactement. Ce qui nous amène à la façon dont ils attaquent.
Grave. Parce que, vu qu'on peut pas éteindre ces machines, comment les hackers arrivent à prendre le contrôle physique ?
Le rapport Kaspersky remonte à 2010. Le fameux Stuxnet.
Le patient zéro. La première vraie cyberarme de l'histoire.
C'est dingue cette histoire. Ça ciblait des centrifugeuses nucléaires en Iran, c'est bien ça ?
Oui. Mais le plus fascinant, c'est comment ils ont passé l'air gap, cet isolement physique total. L'usine de Natanz était même pas reliée à Internet.
Alors, comment c'est rentré ?
Par magie.
Par des clés USB. L'attaque a exploité la chaîne de confiance humaine. Des employés, des sous-traitants ont branché des clés infectées sans le savoir.
Oh la vache.
Et une fois dedans, le virus a fait quoi ?
Il est resté super discret. Il a cherché un truc précis, les logiciels Step 7 de Siemens, ceux qui programment les automates. Et c'est là que ça devient complètement machiavélique. Parce qu'il n'a pas juste tout fait péter ?
Non, ça aurait été trop voyant. Il s'est mis entre la machine physique et les écrans de contrôle des ingénieurs.
Attends, il a modifié les écrans ?
Oui. Il accélérait les centrifugeuses, puis les freinait pour casser le matériel de l'intérieur. Mais en même temps, il envoyait des fausses données aux écrans.
Donc les gars dans la salle de contrôle voyaient que tout allait bien.
Voilà, des courbes vertes, tout était normal. Et sous leurs pieds, les machines s'autodétruisaient. C'est du génie malveillant pur.
C'est flippant surtout. Et depuis 2010, l'arsenal a dû s'améliorer. Les sources parlent d'Industroyer en Ukraine.
Ouais, qui a carrément coupé le courant à Kiev en plein hiver.
Mais le malware Triton dont parlent les rapports, ça me semble être encore un cran au-dessus. Parce qu'il s'attaque au système de sécurité, les fameux SIS.
C'est le cauchemar absolu. Pour reprendre ton analogie de la voiture, si un attaquant veut te faire crasher, il bloque l'accélérateur. Mais t'as encore le frein d'urgence et airbag.
Ouais, la sécurité passive.
Eh bien, Triton, son seul but, c'est de couper les freins et désactiver l'airbag. En silence.
Oh purée. Donc si derrière, il y a un problème sur la ligne de production, aucune alarme va sonner, rien ne va s'arrêter. C'est la porte ouverte à la catastrophe industrielle.
Exactement. Et pour rentrer aussi profondément, ils utilisent souvent ce qu'on appelle des failles zero day.
Les fameuses. Celles que le constructeur ne connaît même pas encore. Zéro jour pour se préparer.
C'est ça. Le panorama 2025 de l'ANSSI indique qu'on a eu 90 failles zero day exploitées activement cette année.
90, c'est énorme. Mais l'analyse d'Integral Systems souligne un truc intéressant. Une faille zero day sur mon PC de bureau, bon, c'est le galère. Mais sur un automate industriel, c'est une crise totale. Pourquoi cette différence ?
Integral Systems met en avant trois facteurs aggravants à noter. D'abord, la surface d'attaque. On a tout connecté partout. Ensuite, et c'est le pire, la maintenabilité.
C'est-à-dire ?
Le temps pour corriger ?
Oui. Sur un PC, tu télécharges le patch, tu redémarres, en 5 minutes, c'est plié. Sur un automate d'usine, mettre à jour le firmware, c'est un projet de fou.
Bah oui, faut rater la ligne de production.
Une ligne qui coûte 100 000 euros de l'heure. Faut l'accord du constructeur. Et surtout, faut prier pour que la mise à jour ne fasse pas bugger la machine, parce que là, tu perds des millions. Et le troisième facteur ?
La visibilité. Ou plutôt, le manque de visibilité. Les usines ont grandi sur 30 ans. Souvent, les directeurs techniques ne savent même plus exactement quelle version logicielle tourne sur un vieux capteur dans un sous-sol.
C'est fou de pas savoir ce qu'il y a dans sa propre usine.
Et Fortinet ajoute que 85% des menaces OT ciblent des protocoles de communication hyper spécifiques. Des trucs comme Modbus, Backnet, OPC.
Modbus, j'en entends souvent parler. Pourquoi c'est si vulnérable ces vieux langages de machines ?
Parce que Modbus, ça date des années 70. C'est un modèle maître-esclave conçu pour un monde où la confiance était totale.
Genre, il n'y a pas de mot de passe du tout.
Rien. Zéro cryptographie, zéro vérification d'identité. Si le réseau reçoit un message qui dit « ouvre la vanne numéro 4 », bah l'automate ouvre la vanne.
Il ne se demande pas si c'est l'ingénieur légitime ou un hacker en Russie.
Pas une seconde. Donc là, c'est même plus du piratage de haut vol. C'est juste parler la langue de la machine et la machine obéit bêtement.
Donc pour résumer, on a des automates qui obéissent à tout le monde, qu'on ne peut pas mettre à jour sans ruiner la boîte et qui sont branchés sur Internet.
C'est un beau résumé du problème, oui.
Mais du coup, comment on se défend face à un truc aussi structurellement cassé? Le livre blanc du Jimelec parle du fameux MCS, le maintien en condition de sécurité.
Oui, c'est devenu la méthode de référence. Et c'est même plus une option avec la directive européenne NIS 2 et le Cyber Resilience Act. La loi l'exige.
Ok, mais dans la vraie vie d'une usine, l'informaticien va dire « on met à jour ce soir » et le chef d'atelier va hurler « touche pas à ma machine, la chaîne tourne ».
C'est toute la friction humaine de la convergence ITOT. Le Jimelec propose 4 piliers pour que ça se passe bien. Le premier, c'est le plus dur, faire l'inventaire, connaître son système.
Le fameux SBOM, non ? Software Bill of Materials.
Exactement. C'est littéralement la liste des ingrédients d'un logiciel.
J'adore l'idée. Au lieu d'une boîte noire, t'as la recette. Si une faille est découverte sur Internet, tu scannes ton usine avec ce SBOM et tu sais direct si l'automate de la ligne 3 est vulnérable.
C'est ça l'objectif. Ensuite, tu as l'identification continue, la planification des risques et enfin, le quatrième pilier, l'application des correctifs.
Mais comment on applique sans tout casser ?
Tout repose sur l'architecture réseau. Les recommandations parlent souvent du modèle perdu.
Perdu, c'est quoi ça ? C'est une ville ?
C'est une université américaine qui a créé ce modèle. En gros, tu sépares l'usine en niveaux très stricts. Du niveau 0, le capteur, jusqu'au niveau 5, le réseau de bureaux. On mélange rien.
D'accord.
Et le secret, c'est le niveau 3.5, la DMZ industrielle.
Ah, la zone démilitarisée. Le sas de décontamination, quoi.
Exactement ça. Aucun fichier, aucun mail ne passe direct du bureau de la compta à la machine-outil. Ça s'arrête dans la DMZ, c'est inspecté et un relais prend le dessus.
Donc ça bloque les ransomware qui arriveraient par info mail des ressources humaines, par exemple.
Voilà. Et pour les mises à jour, on utilise des jumeaux numériques.
Des jumeaux numériques? Genre, on copie l'usine en 3D?
Oui, virtuellement dans le cloud. On applique le patch sur le jumeau. Si la ligne de prod virtuelle explose, on ne touche à rien dans le monde réel. Si tout va bien, on y va.
Compartimenté, simulé, c'est de la belle ingénierie. Mais franchement, je me fais l'avocat du diable. Construire des gros murs, ça prend des années. Et il suffit d'une échelle à un pirate pour passer.
C'est vrai que la défense purement statique, ça suffit plus. C'est pour ça que Fortinet pousse pour des stratégies beaucoup plus proactives, voire asymétriques.
Comme quoi ?
Il y a moyen de piéger les attaquants.
Grave.
Avec des technologies de leurre, les honeypots, sur le réseau industriel, c'est redoutable.
Ah, des pots de miel. Comment ça marche dans une usine ?
L'équipe de sécurité va créer de fausses adresses IP qui imitent parfaitement des vieux automates Schneider ou Siemens. Ça a la même latence, ça répond au mode bus, mais c'est du vent.
Le piège ultime. Parce que vu que ça n'existe pas physiquement, personne, aucun vrai ingénieur n'a de raison de s'y connecter.
C'est exactement ça le génie du truc. C'est le détecteur de présence parfait si quelqu'un ou un programme essaye de communiquer avec ce faux automate.
Tu sais à 100% que c'est un pirate. Zéro faux positif.
Voilà. Et l'équipe de sécu peut bloquer l'attaquant silencieux avant même qu'il ne trouve les vraies machines de prod.
Trop fort. Mais bon, pour les vraies machines, celles qui ont 30 ans, avec un firmware moisi qu'on ne peut pas mettre à jour, on prie juste pour que la DMZ tienne.
Non. Il y a une solution très élégante, le patch virtuel. Le correctif virtuel.
Ok. Comment on corrige un truc sans y toucher ?
On décale la protection. Au lieu de trifouiller le code de la vieille machine, on met un pare-feu industriel ultra-puissant juste devant elle, sur le câble réseau.
D'accord, un bouclier juste devant.
Ouais. Et on dit à ce pare-feu, voilà la signature exacte de l'attaque qui cible cette vieille machine. Si tu vois passer ça, tu bloques.
Hein, je pige. La machine reste vulnérable dans l'absolu. Mais comme le pare-feu filtre chaque paquet de données, il intercepte la commande malveillante en plein vol.
C'est ça. Tu corriges la trajectoire de la balle au lieu de blinder une cible en carton.
C'est super malin. Ça permet de gagner du temps.
Énormément de temps. Tu sécurises des vieux parcs de machines obsolètes, le temps de pouvoir vraiment remplacer le matériel physique pendant une pause estivale, par exemple, sans te faire racketter entre-temps.
Donc, si on rassemble tout ça, de l'ANSI au Honeypot en passant par le SBOM, la cybersécurité, c'est clairement plus juste un problème de salle de serveur. C'est la colonne vertébrale de l'économie et de la sécurité physique des gens.
Complètement. Le fameux AirGap, ce mur magique, c'est fini. La seule issue, c'est que les pros de l'IT et les ingénieurs de l'usine se parlent enfin.
Mais quand on voit à quelle vitesse les hackers s'adaptent, j'ai une réflexion un peu vertigineuse qui va même plus loin que nos sources d'aujourd'hui.
Ah ouais?
Laquelle?
Bah, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle pour trouver des failles irodées, d'accord? Mais demain, que va-t-il se passer quand des IA offensives pourront carrément réécrire en temps réel, de façon autonome, le code propriétaire d'un automate vieux de 30 ans?
Pour générer des comportements que même les ingénieurs d'origine n'auraient jamais pu imaginer.
Exactement. Des mutations physiques imprévisibles sur des chaînes de production critiques. C'est un horizon qui redéfinit toute l'industrie. Ça donne à réfléchir.
C'est le défi de la prochaine décennie, c'est sûr. Eh bien, avant de clore cette exploration, il est essentiel de bien spécifier une dernière fois que cette analyse approfondie est réalisée par la société Integral Systems, experte en informatique industrielle depuis plus de 20 ans.
Une expertise vraiment indispensable aujourd'hui.
Tout à fait. La curiosité et la vigilance restent nos meilleures armes face à ces mutations. Merci de m'avoir accompagné et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les dynamiques qui transforment notre monde.
À bientôt, Sam.